Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
L'humanité ne peut survivre. Les réplicants sont l'avenir de l'espèce. Et je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est quoi la matrice ?
La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Si vous avez vu Blade Runner 2049 ou Rogue One, nouvel épisode de Star Wars, vous avez été époustouflé par la qualité des effets spéciaux. Mais comment est-ce qu'on fabrique ces effets ? C'est à Pascal Pinton que l'on va poser la question. Bonjour, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, scénariste et concepteur de trucage. Tiens, vous avez conçu quel genre de trucage ?
Alors quand j'étais tout petit, quand j'avais 17 ans, je fabriquais les vaisseaux spatiaux des génériques de Temps X.
Non.
Pour les frères Bogdanov.
Génial.
Et puis ensuite, j'ai travaillé sur des publicités et pour des parcs à thème comme Disneyland Paris pour lequel j'ai fabriqué les personnages.
Pour être concepteur comme ça de trucage et d'effets spéciaux, il faut être un bon créatif manuel ou un bon informaticien ?
Alors ça dépend du domaine dans lequel on va choisir d'agir. Moi, en ce qui me concerne, j'ai surtout travaillé sur des maquettes, donc c'était plus manuel, c'était plus de la sculpture aussi, des prothèses, du maquillage, des masques.
Alors on va, grâce à vous, se balader dans le temps et dans les différents types d'effets spéciaux. On commence avec les films d'aujourd'hui les plus marquants, notamment la série Star Wars avec en décembre le volet très attendu, Les Derniers Jedi. Là, on a par exemple des gigantesques paysages forcément reconstitués. Comment sont-ils conçus ? Comment on en arrive à ce résultat, à ces planètes concrètes ?
Eh bien, aujourd'hui, on utilise un mélange très habile de réalité et de fiction. C'est-à-dire qu'on utilise à la fois des images qui sont des photographies de vrais paysages, par exemple, et de la 3D sur laquelle on plaque ces images de vrais paysages en leur ajoutant, par exemple, des arbres qu'on sait faire pousser avec des logiciels qui sont capables de faire pousser un arbre comme dans la réalité, du petit bout de tronc jusqu'à l'arbre de 20 mètres de haut avec toutes ses feuilles. Et donc c'est un mélange de vérité et de virtuel et la plupart des superviseurs des effets visuels s'attachent toujours à avoir une référence réelle, une photo pour leur servir de guide.
Et les personnages réels, les acteurs ou même les animaux tous improbables qu'on découvre dans ces films, comment sont-ils incrusté en quelque sorte.
Alors, pour incruster les acteurs dans des paysages virtuels, on utilise une bonne vieille technique qui est celle du fond vert.
Oui.
Et généralement, maintenant, on met sur les plateaux des petites amorces de décor, par exemple le sol avec par exemple des graviers, un petit peu d'herbe, etc., quelques rochers. Et derrière, il y a un écran vert. Et comme ça, ça permet à l'acteur de marcher sur un véritable sol avec les cailloux qui se déplacent sous ses pas, les empreintes qui restent dans le sol, tout en faisant mine, si par exemple il se retourne, en regardant le fond vert, de pouvoir ensuite être incrusté sur un paysage virtuel.
Imaginez l'immensité du paysage alors qu'il a juste un panneau peint en vert. Ouais.
Pascal Pinton, vous faites partie du comité scientifique de l'exposition que l'on peut découvrir en ce moment et jusqu'au mois d'août à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Elle s'appelle « Effets spéciaux crevés l'écran » et l'on y découvre par exemple que les tout premiers paysages et décors dans les films étaient peints.
Alors oui, ils étaient complétés par des peintures parce que par exemple, imaginez une scène de salle de bal, par exemple, qu'on tourne en studio. Et bien évidemment, dans un studio, on a besoin d'accrocher les projecteurs quelque part pour que tout soit bien éclairé. Et c'est accroché donc à une structure qui se trouve au-dessus des décors, qui est une structure métallique qu'on appelle un grill. Et donc, dans l'image réelle, quand on regardait dans la caméra, on voyait le décor de salle de bal, mais au-dessus, non pas un plafond, mais tout un tas de projecteurs accrochés. Donc, pour éviter cela, on mettait une plaque de verre. Un peintre hyper réaliste donc, arrivait à faire une peinture en alignement avec ce que voyait la caméra et il peignait sur la plaque de verre le plafond qui manquait. Il ajoutait même un lustre ou deux ou trois, parce que ça ne coûtait pas très cher. Et donc, l'image finale, c'était une image complète.
Et par exemple, dans Ben-Hur, en 1925, vous savez, vous rappelez tous de la célèbre course de chars, il y a une foule absolument incroyable. Ce sont des vrais comédiens ?
Non, alors en 1925 déjà, c'était un trucage qui était à peu près l'équivalent d'un peinture sur verre, mais avec des maquettes. C'est-à-dire qu'on suspendait aussi des maquettes devant la caméra, en alignement avec un vrai décor, grandeur nature, placé beaucoup plus loin. Et dans le cas de ce Ben-Hur de 1925, on agitait des petites marionnettes dans les gradins pour faire croire que la foule acclamait les chars.
Et à chaque époque, évidemment, ces trouvailles, par exemple Forrest Gump, avec ce principe de la double passe, c'est quoi ça ?
Alors, ça consiste à utiliser une caméra qui est pilotée par ordinateur. Et donc, dans un décor réel, en l'occurrence celui de Forrest Gump, où Forrest Gump va devant le fameux monument, vous savez, avec l'obélisque, entre guillemets, qui se trouve à Washington.
C'est le mémorial Lincoln, c'est ça, oui.
Alors, c'est ça, et je crois que c'est le monument en lui-même à un autre long, c'est le Maul, je crois. Mm. Et donc, la caméra du réalisateur suivait donc Tom Hanks qui faisait en faisant un panoramique comme ça. Et donc, le mouvement de la caméra suivant l'acteur était enregistré. Et derrière Tom Hanks, il y avait un premier rang de figurants, simplement. Oui. Ensuite, on refaisait le même mouvement de caméra, mais en déplaçant les figurants, en les mettant un petit peu plus loin, puis un troisième encore plus loin. Et c'est comme ça qu'en rajoutant les couches de figurants les unes après les autres, et les unes derrière les autres par trucage, on est arrivé à remplir tout ce décor comme dans le fait réel des années 60.
Comment faire vieillir les actrices et les acteurs au cinéma ? Secret de maquillage à venir dans un instant. Les curieux, restez avec nous sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique. Durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème. Et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une bonne idée de balade, tiens, si vous êtes en vacances et si vous passez en région parisienne. L'exposition à la Cité des Sciences de la Villette à Paris, effets spéciaux, crevez l'écran. On découvre l'histoire des effets spéciaux avec le journaliste et scénariste Pascal Pinto. Alors Pascal, on va parler du maquillage et du vieillissement des comédiens. Évidemment, ils sont nombreux à lutter contre le vieillissement dans la vraie vie.
Mais pas à l'écran.
Avec différents moyens, mais à l'écran parfois. On les fait vieillir. Est-ce qu'on utilise encore le bon vieux maquillage aujourd'hui ?
Alors, tous les systèmes existent, mais il y a eu à partir d'une certaine époque, à partir des années, la fin des années 30, le recours à un matériau qui est la mousse de latex, qui a permis le premier de faire une espèce de seconde peau souple, légère, qui suivait toutes les expressions du visage, mais qui avait le défaut d'être opaque. Et donc, depuis quelque temps, la mousse de latex cède petit à petit du terrain à une autre matière qui est le silicone, qui lui peut être aussi translucide que la vraie peau, et ça permet de faire des maquillages de vieillissement absolument saisissants, et alors là, pour le coup, insoupçonnables.
Mais on n'utilise pas le vieillissement par ordinateur, parce que ce serait trop compliqué, il faudrait le faire quoi, image par image, ou de temps en temps on le fait ?
De temps en temps on le fait, mais je trouve que c'est un avis personnel, mais il est aussi basé sur le coût des choses. Ouais. Les retouches de visage par ordinateur sont très coûteuses.
D'accord.
Et autant c'est très intéressant de rajeunir des acteurs par ordinateur, et ça consiste dans ce cas-là à créer un modèle 3D de leur visage rajeuni d'après des photos d'époque et à le plaquer sur leur vrai visage et à l'animer, image par image. Mmh. Autant avec les merveilleuses techniques d'aujourd'hui et les prothèses en silicone, on arrive à vieillir de façon tout à fait réaliste les comédiens.
Pascal Pinto, dans votre livre « Effets spéciaux, deux siècles d'histoire » aux éditions Bragelonne, on découvre les prémices de ces effets spéciaux liés au maquillage et tout commence avec le magicien d'Oz, on est en 1939.
Oui, alors ça, c'était une véritable prouesse. À l'époque, l'équipe du magicien d'Oz est allée chercher un caoutchouc mousse qui servait à fabriquer des matelas ou des pneus increvables et essayer de le dompter parce que c'était une matière extrêmement capricieuse. Alors, pour fabriquer, par exemple, les prothèses du lion peureux ou de l'homme de fer blanc ou de l'épouvantail, on était obligé de faire jusqu'à 10 tirages pour avoir un seul jeu de prothèses correct. Et le jeu de prothèses qu'on collait sur le visage de l'acteur le matin, il ne servait qu'une seule journée parce qu'il se déchirait quand on le retirait le soir. Donc ces gens étaient devenus de véritables forçats de la création de prothèses.
L'un des grands génies du maquillage, c'est Dick Smith. Qui est-il et qu'est-ce qu'il invente en fait de si révolutionnaire ?
Alors Dick Smith, ça a été vraiment le magicien de la mousse de latex. Il a fabriqué, il a par exemple vieilli Marlon Brando dans Le Parrain en utilisant des effets spéciaux très simples parce que Marlon Brando était quelqu'un d'assez compliqué, on va dire, et donc il lui demandait de simplifier les choses.
Oui, il ne voulait pas passer trop de temps en maquillage.
Exactement. Donc, par exemple, pour ce cas précis, plutôt que de lui fabriquer des prothèses, Dick Smith avait eu l'idée de lui fabriquer des prothèses dentaires qui déformaient le bas de ses joues pour lui créer des bajoues, mais sans ajout de maquillage. Il avait simplement utilisé du latex pour former des rides sur la surface de sa peau. Donc, avec ces deux systèmes-là, il a réussi à vieillir correctement Marlon Brando. Mais c'est surtout dans Little Big Man.
Ah oui, j'allais vous parler de ça parce que moi, c'est vraiment une image qui marque mes souvenirs d'amoureux du cinéma. Dustin Hoffman, qui a, je ne sais plus quel âge, plus de 100, 120 ans.
Je crois qu'il a 110 ans.
Ouais, dans son personnage. Comment ça a été fait ça ?
Alors, Dick Smith a inventé un nouveau système qui consistait à non plus à mettre simplement une ou deux prothèses sur le visage, mais à créer un véritable puzzle de prothèses qui se chevauchaient les unes les autres avec des systèmes assez compliqués de moulage, de contre-moule. Et il a donc recouvert tout le visage de Dustin Hoffman par ses sculptures en mousse de latex, donc faites sur mesure, sur ses propres traits. Et il avait même fait des prothèses de paupières en accordéon qui était capable de s'ouvrir, donc de se déployer pendant que Dustin Hoffman parlait. Et il avait passé énormément de temps là-dessus. Et au montage, quand il a regardé le film, malheureusement, il n'y a pas un seul plan avec lequel on voit Dustin Hoffman cligner les yeux.
Ah, il y a aussi ça, il y a aussi la frustration des maîtres des effets spéciaux, parce qu'évidemment, c'est au montage que l'histoire se boucle et se raconte. Tiens, vous allez découvrir, si vous restez avec nous sur RTL, qu'il y a aussi des effets spéciaux sur le son. On va parler quoi ? On va parler d'agrafeuse et de bouilloire, par exemple. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora.
RTL.
Non ! Pose-moi par terre !
La curiosité est un vilain défaut.
Je s'appelle Groot.
Non !
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez reconnu les extraits de King Kong, Avatar, Gardien de la Galaxie. Effets spéciaux, oui, il y a des effets spéciaux dans tous ces films. Et les secrets de ces effets spéciaux sont révélés dans cette exposition qui a lieu à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. C'est jusqu'au mois d'août et nous sommes avec le journaliste et scénariste Pascal Pinto qui nous révèle ses secrets. On découvre que ça ne concerne pas que l'image et c'est ça qu'on adore, nous qui adorons notre média, la radio. Ça s'applique aussi au son. Par exemple, pour faire ce bruit, écoutez. Ça, c'est le bruit d'un arme, d'une arme, pardon, un coup de pistolet. Ouais. J'utilise plus de voyelles, moi non plus, Thomas. Pascal, qu'est-ce qui permet au cinéma de faire ce bruit ? Est-ce qu'on utilise une véritable arme ou on utilise un effet spécial ?
Alors, ça peut être vrai dans les deux cas. On peut utiliser à la fois un vrai pistolet, utilisé dans certaines circonstances, mais aussi des objets de la vie quotidienne, comme une agrafeuse, pour faire le bruit du réarmement de l'arme.
Alors, ah oui, ça, c'était une agrafeuse ?
Oui.
Bon, alors, c'est décevant quand même. Moi, j'imaginais un gros calibre, boum, une agrafeuse.
Ah bah oui, mais c'est toujours un peu décevant de découvrir les coulisses de vos films préférés, par exemple, pour le décollage d'un avion. Faut au moins un Boeing 747 pour faire ça.
Alors là, on entend nettement un moteur à hélice. Donc là, je veux dire que sur cet exemple précis, j'en ai strictement aucune idée.
Ça, c'est un vrai avion, mais on peut l'utiliser quoi ?
On peut arriver, par exemple, à faire des bruitages de réacteurs avec une bouilloire, avec différents types d'appareils comme cela. Et puis plein d'autres objets qui sont détournés. Vous savez, généralement, les bruiteurs, quand ils travaillent, c'est absolument étonnant à regarder parce qu'ils ont avec eux un attirail absolument invraisemblable d'objets, de bouteilles, de vieux trucs en métal, en fer, en bois, des petits carrés de gravier pour faire les pas des personnages qui marchent.
Ouais, ouais. L'effet noix de coco aussi, c'est quoi ça, l'effet
noix de coco ? C'est le
galop
du cheval.
Ouais. Et finalement, l'oreille des spectateurs s'était tellement habituée à ce qu'il soit fait par des noix de coco que quand on leur mettait un vrai cheval, ils le trouvaient factice, c'est
absolument
ça, plus ou moins.
Rien ne remplace le noix de coco.
Alors, par exemple, dans Star Wars, pour faire ce bruit que vous connaissez évidemment, bruit du pistolet laser.
Ah oui.
Alors, ça, c'est le bruit des sabres laser.
Ouais. Du sabre laser, décidément, j'ai du mal avec les armes.
C'est un peu différent. Alors, sur le bruit du sabre laser, on l'a fait avec des interférences qui sont. C'est en fait une espèce de larcène, comme nos amis de la régie essaient de les éviter. Et bien là, les bruiteurs de Star Wars ont joué avec un effet larcène et mélangé avec différents sons pour produire le son du sabre laser. Mais il y a un autre trucage, sonore, qui est très très connu, c'est celui du pistolet laser. Alors, le pistolet laser, c'est une invention géniale de l'ingénieur des effets sonores Ben Burtt, qui avait tout simplement à l'époque frappé avec un petit marteau métallique sur le câble qui était le soutien de l'antenne d'une station FM. Et donc, en accélérant un peu ce bruit de câble frappé par le marteau, ça faisait pioum, pioum, et c'est le fameux bruit du pistolet laser.
Et alors, ce bruit mythique qu'on a tous essayé d'imiter avec plus ou moins de succès, la respiration de Dark Vador.
Alors ça, c'est la combinaison de deux bruits. C'est le bruit en fait d'un climatiseur et de la respiration de Ben Burtt dans un masque de plongée.
C'est très génial. Drôle d'imaginer l'agrafeuse, la bouilloire et le climatiseur.
Dans les sons aussi, il y a ce son qui est extrêmement connu dans le monde du cinéma et que moi j'ai découvert en préparant cette émission, c'est le fameux cri de Wilhelm. Alors on va d'abord l'écouter. Et ce cri, on le retrouve dans plus de 200 films de cinéma. Oui. Déjà, d'où vient ce cri ?
Alors, il vient d'un film des années 50 qui s'appelle La Charge de la Rivière Rouge. Et c'est devenu une espèce de gag à répétition pour tous les ingénieurs du son qui se sont amusés à le mettre, par exemple, dans tous les Star Wars, dans tous les aventures d'Indiana Jones depuis les Aventures de l'Âge Perdu, dans plusieurs épisodes des Pirates des Caraïbes, dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, dans le cinquième élément, absolument partout.
Parce qu'il y a évidemment une banque dans laquelle tout le monde peut piocher, ou alors chacun a ses sons privés et les garde jalousement?
Alors, il y a des banques qui sont accessibles, mais les très grands ingénieurs du son et les créateurs d'effets sonores se font évidemment un devoir de créer des effets spécifiquement en fonction des nouvelles images, des nouveaux films qu'on leur soumet.
Alors, ce n'est pas forcément un effet spécial, mais souvent, les comédiens se doublent de nouveau. Pour quelles raisons? Dans quelles circonstances? Est-ce que ça concerne beaucoup de films?
Beaucoup de films, parce qu'il y a toujours des sons parasites sur un plateau de tournage, des choses qu'on n'avait pas imaginées, par exemple une caméra, une grue montée sur caméra qui va ripper un élément de décor. Et tout d'un coup, on va entendre bing parce qu'un accessoire s'est cassé la figure.
Un assistant réel qui éternue.
Voilà, absolument. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va demander aux acteurs de se doubler. Et quelquefois même, on utilise cette petite astuce pour rajouter, quand ils sont légèrement de trois quarts, quelques mots que les scénaristes ont changés entre temps pour modifier les dialogues.
Vous écoutez RTL.
Écoutez,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Les effets spéciaux au menu de notre curiosité. On est avec le journaliste et scénariste Pascal Pinto. Je rappelle que vous faites partie du comité scientifique de l'exposition Effets spéciaux, crever l'écran, qui se tient à la Cité des sciences de la Villette à Paris. Et on peut, dans cette expo, tester le fameux fond vert dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors, ça ressemble à quoi? Imaginons, on arrive devant dans l'expo, on peut faire quoi?
Alors, on passe sur un pont suspendu. Et grâce à la technique, donc l'incrustation vidéo, l'ordinateur est capable d'identifier le vert fluo très particulier, on appelle la température de couleur, qui se trouve derrière les visiteurs. Et donc, il y a un fond qui a été généré en image 3D qui apparaît. Et à ce moment-là, les visiteurs se retrouvent sur cette passerelle, entourés de requins dans les abysses ou en train de surplomber une vallée avec des ptérodactyles qui les frôlent. Et c'est d'ailleurs l'œuvre d'étudiants d'une école d'animation et d'effets spéciaux qui s'appelle Artefix, qui est située à Montpellier et qui ont fait un travail tout à fait remarquable.
Pourquoi un fond vert et pas un fond bleu ou un fond rouge?
Alors on a utilisé des fonds bleus aussi, surtout au début du cinéma, parce que c'était un bleu très très profond qu'on ne retrouvait pas par exemple dans les teintes du visage. Et ça permettait, avec à ce moment-là de la manipulation de pellicule et tout un tas d'effets très compliqués sur pellicule qui consistait à recopier différents éléments, on arrivait à faire le même détourage, mais c'était beaucoup plus fastidieux. Et surtout à l'époque, les gens travaillaient à l'aveugle. Donc ça veut dire que tout était fait de mémoire, en fonction de la durée d'exposition. Ils utilisaient des machines qui étaient en fait une caméra face à un projecteur pour recopier tous ces petits morceaux d'image comme des puzzles et obtenir ce qu'on appelait une image composite.
Allez, pour apprendre plein de choses sur les effets spéciaux, cette exposition à la Cité des sciences de la Villette à Paris, c'est jusqu'en août et c'est à partir de 8 ans. Il y a aussi un livre qui va avec aux éditions de la Martinière. Et puis sinon, il y a votre Bible, 25 ans de travail, Pascal Pinto, effets spéciaux, deux siècles d'histoire. C'est aux éditions Bragelonne.
Et
à très bientôt.
Et vous vouliez citer rapidement ceux qui vous accompagnent.
Je voudrais dire que ce sont Sophie Lécuyer, la commissaire de l'exposition, ainsi que Laurence Canesi et Marie Pichard qui ont porté ce projet depuis les tout premiers contacts il y a 2 ans et qui ont réuni toute cette équipe. Donc elles ont fait un travail fantastique.
Merci Pascal.
Vous écoutez RTL.